Elle est dévoilée, chez elle. Mais dehors, c'est pas l'endroit de la sainteté. Mais dehors, c'est pas l'endroit de la sainteté. Il y a une sainteté cachée, et qui est peut-être plus profonde parfois que la sainteté dévoilée. Vous avez compris ce principe? Alors il dit, il y a Kdushat Pnim et Kdushat Hout. Et il donne un exemple. Quel exemple? L'exemple de l'amour. Et c'est en étudiant ce Darmstadt, dans le Rav Etzraïm, que c'est moi-même qui ai fait le lien avec ça, et il est évident qu'il avait ça dans sa pensée. Et que je vais vous expliquer de cette manière. Par exemple, nous avons étudié dans le vocabulaire de la Kabbalah comment le Keli vient de la rencontre entre la lumière et le néant du Chalal, vous vous rappelez de cela. Et au fond, c'est le Keli qui définit ce qu'est la créature en tant que créature. Parce que le or qu'elle reçoit vient du créateur. Le or définit ce que le créateur donne à la créature. Mais la créature se définit par son Keli. C'est clair? C'est-à-dire, au fond, a priori, je dis bien a priori, c'est un sujet pour lui-même. Au fond, toutes les âmes, toutes les créatures ont la même racine, mais les créatures sont différenciées par leur corps. Ça, c'est même. Vous comprenez le problème? Si vous envoyez la même émission de lumière, suivant la nature de l'écran qui la reçoit, il apparaît une couleur différente. Donc c'est l'écran qui fait la spécificité des images et non pas l'émission de lumière. C'est bien clair. Si on parle de lumière. Et alors, la Chafetz Chaim donne l'exemple suivant. Il y a deux sortes d'amour. Et je vous donnerai la formule de définition. Je vous dirai après si vous en avez parlé un jour, parce qu'il me semble que c'est encore proche dans la mémoire de bouche. Je ne sais pas comment dire. C'est ceci. C'est qu'il y a l'amour qui est permis dans la maison et interdit dehors. C'est l'amour du mari pour sa femme. Il y a l'amour qui est permis dehors et interdit dedans. C'est l'amour du frère pour sa sœur. C'est clair? Mais l'amour complet, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a que l'amour clean et pas encore l'amour root, alors l'amour est incomplet. C'est-à-dire, l'épreuve de la relation à autrui doit être achevée, son tikkun, et quand, premièrement, c'est plus mâle et femelle, mais époux et épouse, et c'est déjà un énorme niveau qu'il faut atteindre, mais là encore, c'est que n'est que le point de départ. À partir de là, il faut arriver à ach et achot. Ça va jusque-là? Bon. Et alors, le Rav Etzraïm se base sur des versets extrêmement précis, en particulier du Shir HaShirim, et que je vais vous citer. Peut-être d'ailleurs, j'ai la tentation de vous donner la référence elle-même, on donnerait un Shir HaShirim. Il y a un verset qui dit ceci. Mi itencha keachli, yone shedeimi, emsa acha bachutz, eshakcha, gam ro yeruzmi. Ça vous arrive de lire le Shir HaShirim? Pas encore. L'interruption. Ça veut dire, Rachel va vous donner une référence, Mi iten cha keachli, c'est la Shulamit qui parle au roi Amalek. J'avais des invités, et qui lui dit, Mi iten cha keachli, qui serait de toi comme un frère pour moi, keachli, emtsa acha bachutz, je te rencontrerai en dehors, et chaque ra, je t'embrasserai, regarde où il y a Bouzouli, et on ne me mépriserait pas. J'ai compris le problème. Et ça veut dire que l'amour du frère et de la sœur se définit comme étant l'amour dehors, alors que l'amour de l'époux et de l'épouse se définit comme étant... Bon. Il y a aussi dans la Torah deux aspects. Il y a l'aspect intérieur, pnim, et il y a l'aspect extérieur, chutz. L'aspect intérieur, c'est le nistar, ce qui est caché. Et l'aspect extérieur, c'est le niglé, ce qui est dévoilé. Michel, vous suivez le raisonnement? Et je pense que vous devinez où je vais arriver. Alors, lorsque Israël commence à voyager avec sa Torah, alors on lui demande, j'ai quelque chose à déclarer, il dit oui, j'ai une Torah. Elle dit, bon, mais ta Torah, c'est ta femme ou ta sœur? Qu'est-ce que ça veut dire, ta femme ou ta sœur? Ça veut dire, elle te concerne que toi, spécifique d'Israël, ou c'est un message universel? Alors, qu'est-ce que répond le juif naïf? Oh, c'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur, on va te la prendre. Mais pour être sûr qu'on te l'a prise, on va t'envoyer au crématoire. Vous voyez toute l'histoire d'Israël chez Abraham. Là, dans ce récit. C'est clair. Alors, à ce moment-là, le juif répond, mais c'est ma femme. Il dit, mais tu as dit que c'est ta sœur. Il dit, mais c'est aussi ma sœur. Alors, décide. Oui, vous comprenez l'égoïne? Oui.
Le retrait.
Mi tenkha. Alors c'est le chapitre. Oula, oh là, je vois rien, tu comment. Ah ben c'est le premier verset du chapitre 8. Chapitre 8, verset 1. Alors, ce que je vais appeler ici la femme et la sœur, les deux dimensions, c'est la dimension spécifique à Israël, le mystère de la Torah. Elle est là où la Torah est Baalat Bayit, la maîtresse de maison à l'intérieur, et l'aspect universel qui concerne le dehors et voilé pour tous, ça c'est la sœur. Il y a un verset dans Michelet qui dit « Dis à la sagesse, tu es ma sœur. » Il nina la chorma achoti at. C'est un verset qui dit « Chormot bachut tarona » Les sagesses chantent en dehors. Bon, vous apprendrez tous ces versets un jour. Ça veut dire qu'il y a deux aspects de la sagesse, l'aspect femme, épouse, disons, et l'aspect sœur. Alors je pense que l'explication est claire, c'est Abraham arrivé à la frontière, c'est Israël dans l'exil. J'ai une Torah, il y a les belles. Donc, j'ai fini par savoir qu'elle est belle. Alors je vous la présente. Ah bon, mais ta Torah, c'est quoi, ta sœur ou ta femme? Oui, cette tentation des Juifs de dire ma Torah est universelle, bien bon, c'est à nous, et puis toi, au pic. Alors, mais non, c'est à moi. Ah, comment c'est à toi? Mais tu as dit que c'était à tous. Mais oui, c'est à tous. Ah, mais alors c'est à tous. On peut aller jusqu'à la fin des temps. C'est clair? Alors, voilà ce qui se passe.
C'est la même chose pour la terre,
voilà, par exemple. Si le monde entier reconnaît que Jérusalem, capitale d'Israël, c'est aussi leur capitale, Baruch Haba. C'est aussi leur capitale, pourquoi pas? Mais premièrement, c'est Israël. C'est la capitale d'Israël. Seulement dire, vous, les Juifs, allez-vous-en. Ça, c'est à nous. Ça, c'est ça l'histoire des Juifs. T'as compris? Je vous ai raconté le... Pourquoi pas que l'humanité entière arrive à régulariser son quoi elle fait semblant de croire? Que Jérusalem, la capitale d'Israël, c'est aussi la capitale du monde entier. On finira par le faire tout seul, d'ailleurs. Mais, de la même manière que la Bible, qui est la Bible d'Israël, c'est aussi la Bible pour le monde entier. Mais arriver à ce stade, où finalement... Et ça, élève de l'université à Paris, j'ai entendu ça de mon professeur, les Juifs ont emprunté la Bible aux chrétiens. Oui, carrément, comme ça. Ça me rappelle la découverte du père Riquet quand on s'est rencontré juste quand il est sorti du camp de concentration. Quelle merveille, vous lisez aussi les psaumes. Voilà. J'ai pas compris. Une anecdote qui me revient dans la rabbin de France. Vous n'avez pas connu. Sœur. Oui. Je vais te dire. L'autre que moi, qui n'est pas moi, mais qui est moi. C'est ça la sœur. Ouais, c'est énorme. Parce que la femme, c'est l'autre que moi qui n'est pas moi. Et alors, il faut arriver au stade supérieur. Mais qui est moi, ça c'est la dimension. Il y avait un grand France, avant le grand rameau. Je vous dirai personnellement, je n'ai pas le droit de faire la chose. Non, c'était pas excellent. J'aimais beaucoup d'ailleurs. Alors c'était le temps où les grands rameaux de France étaient très assimilés. Et alors un jour, il devait faire l'intronisation du grand rameau de Constantine. Je me rappelle, j'étais tout mûr comme ça, mais ça m'est gravé dans la mémoire. Alors j'étais allé avec mon père à Constantine. Constantine s'est réuni de train la moitié de la journée, à l'époque. Et un grand voyage pour le grand rabbin de France venait introniser le grand rabbin de Constantine. Et alors le grand hommage qui lui a fait, c'était un homme très respectable, une grande barbe de patriarche, une grande soutane française, et le rabbin, vous rappelez le rabbin comme ça, une dentelle. Il avait une voix d'ailleurs extrêmement pathétique. Et alors, il s'adressait à un public qui, au fond, le tiers parlait un peu français, et les autres étaient du jeu arabe, alors ça se traduisait de bon en bon. Et dans le fond, il y avait les vieux juifs de Constantinople qui ne comprenaient pas le français, mais qui l'entendaient parler avec des sanglots. Ils sont mis à pleurer. Après, on a compris l'histoire. Il leur a dit, votre rabbin, c'est un grand érudit. Il lit dans un livre où il n'y a pas de point voyelle. Et alors, les vieux là-bas, ils l'ont entendu pleurer comme ça, ils sont mis à pleurer. Les découvertes. D'ici un grand homme comme ça, il pleure, il faut pleurer. Pourquoi? Parce qu'il savait encore lire dans un livre, il n'y a pas de voyage. Bon, ça revient au problème. De quoi je parlais? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il y a un autre exemple de ça? Ici, il y a un autre exemple. Mais à quel type d'exemple tu penses? C'est ce que je viens de dire. Alors, explique.
Bon, d'après, c'est ça que j'ai vu. Une famille qui est à l'ombrie de Québec, que Emmanuel est parti et comme ça, avec sa femme, a fait un contact avec la société de l'histoire de la société de moi à l'époque, en tant que son enfant qui vient de moi. Et que c'est la fin, c'est la culture de moi.
Oui, mais il y a vraiment une analogie au début. C'est-à-dire que la cause des événements, la cause de l'événement, et dans le sens de Ruth, c'est positif. C'est-à-dire ce qu'il y avait comme sainteté dans la lignée de Lot, à travers moi, revient dans la famille d'Abraham. Et donc c'est un engendrement messianique. On avait étudié ça chaque fois. Okay. C'est la famine du début, c'est évident. Mais là, la situation est inversée. C'est-à-dire, je vais vous préciser un peu plus, vous allez bien comprendre. Le changement de nom de Sarai en Sarah. Sarai, ça veut dire ma princesse. Et Sarah, ça veut dire la princesse. Ça veut dire que c'est le passage au niveau de l'universel. Alors le passage au niveau de l'universel est proposé à toutes les nations. Seulement, c'est le programme, c'est à la fin des temps qu'ils vont comprendre de quoi il s'agissait. Seulement, comme il y a encore un stade de barbarie, voilà ce qu'il en résume. On va lui prendre sa femme et parce qu'on va raisonner que c'est sa sœur. Il y a un passage dans la Gemara qui est extraordinaire. C'est dans Baba Kama, page 100. Si c'est pas page 100, c'est 99. Il dit ceci, sur le principe suivant. « En mita belo re, venisurin belo avon. » Il n'y a pas de mort sans faute, s'il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas eu de péché. La Gemara objecte. S'il en est ainsi, tenez-vous bien. Pourquoi l'égoïme meurt? Regardez l'humour de la Gemara. De quoi la Gemara s'occupe? Pourquoi il y a la mort chez l'égoïme? Puisqu'ils n'ont pas accepté la Torah. Leur faute, ce n'est pas des fautes. Vous suivez? Et ça, c'est à propos du deuxième épisode, lorsqu'Abraham et Sarah sont chez Abimelech. Qu'on va lire peut-être pour l'éclairer tout à l'heure un peu plus. Lorsque Abimelech se rend compte de la gare, je ne vous ai pas fini encore l'histoire de l'Égypte, mais on reviendra après. Alors, Dieu se révèle. Comment Abimelech se rend compte de cette gare? Dieu se révèle à Abimelech dans le rêve et lui dit: tu as pris la femme d'Abraham. Il dit: comment la femme? C'était sa sœur. Et c'est innocemment que je l'ai fait. Alors il y a ce verset: A goy kam tzadik ta'arog. Est-ce que tu vas tuer un goy même tzadik? A goy kam tzadik. Retenez bien l'expression: goy kam tzadik. Alors, comment on répond? Vous avez compris la question. Puisqu'ils n'ont pas, ils ne sont pas justiciables du jugement par la Torah. Pourquoi ils meurent? Alors, la Gemara reprend cet exemple et dit ceci. Elle dit, ils ne vont pas être justiciables de la mort à cause de la faute vis-à-vis de la loi, puisqu'ils n'ont pas reçu la loi. Mais, ils sont justiciables vis-à-vis de la politesse, des référents, dans le sens étymologique. C'est-à-dire des règles de la vie de la société. Alors il dit, lorsque quelqu'un vient demander l'hospitalité, quelle est la première question qu'on lui pose? Est-ce que c'est ta femme ou sa sœur? Ou bien on lui demande est-ce qu'elle a besoin de manger et dormir? Oui, ils ne sont pas justiciables au niveau de la Torah, mais ils sont justiciables au niveau de la politesse. Ce que je veux signaler, c'est ceci, c'est que il y a un message de générosité qui vient d'Abraham. Et ce message finira par travailler et arrivera jusqu'au bout. C'est là que je rejoins un peu ta question. Mais au moment où il est émis, entendu, c'est un état de barbarie. Et on va voir les catastrophes s'abattent sur cette civilisation égyptienne. Pourquoi? Parce que cette stratégie d'Abraham, qui dit de sa femme qu'elle est sa sœur, on a cru qu'elle était sa sœur, alors on l'a prise. Et on lui a fait des grands cadeaux. Mais ça n'a rien à voir avec la première partie du livre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un état de barbarie. À quoi ça ressemble? Mais je ne me rappelle plus si on l'étudie avec vous. Si je l'ai étudié avec vous, c'est le problème de la tribu de Shrem. Vous vous rappelez, quand Jacob, revenu de l'exil, cherche avec qui marier Dina. Vous vous rappelez de cela? Non, on n'a pas étudié cela? Tu t'en rappelles? Ah, tu l'as lu? Oulala, alors on va faire ça tout de suite après. Rappelez-moi ça immédiatement. Alors je vais aller rapidement parce que je vais quand même qu'on étudie ça. c'est que il y a un élan de générosité, mais on se heurte à un état de barbarie. Alors, je vais dire, Raïli, Kevo Abraham Mitzrayma. Et il arriva, lorsqu'Abraham arriva en Égypte, Pairou à Mitzrim et Taïcha, les Égyptiens ont vu cette femme qui a failli, ils ont vu qu'elle était belle, mais oh, très. Pairou Ota, Sarefaro, on en a parlé jusqu'aux ministres, les ministres du pharaon l'ont vu, Pairou Ota, ils l'ont loué, El Paro, à Pharaon, Patuka Haïcha, El Paro, et cette femme fut prise à la maison du pharaon. L'Abraham est-il Bahavora? Et on a fait beaucoup de bien à Abraham pour elle, grâce à elle. Vaïlot, son bakal, il a eu des troupeaux, Vahamourim et des ânes, Vahavadim, Mouchvaho, des serviteurs, des servantes, Vahatono, des ânes, des manines, des chameaux. Verset 17. Vaïmnaga, Hachem et Paro, Negaïm, Gedoli. Et Dieu a envoyé à Pharaon de grandes plaies, Vedbeto et à sa maison, Aldevar, Sarai et Chet Abraham, à cause de ce qui était arrivé à Sarai, femme d'Abraham. Vaïkra, Paro et Abraham, et le Pharaon a convoqué Abraham, Vaïomer, et il lui a dit, Mazot Asitali, Qu'est-ce que tu m'as fait? Lama loigatali ki jtehai, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Lama amarta achoti, et pourquoi tu as dit, tu es ma sœur? Achoti, elle est ma sœur, pardon. Vaika chotali veisha, je l'ai prise pour moi ta femme, vaata ine jteha kaoaler, et maintenant voilà ta femme, va être, prends-la et va-t'en. Vaitsa va la pharaon anashim, alors le pharaon a commandé à des dignitaires, et ils l'ont renvoyé, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire le message n'a pas été entendu. Vous voyez, subitement, il y a une chute. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette civilisation a été frappée de grandes plaies, le Midrash Internet dit, a été frappée de stérilité. Ça veut dire, le stade de sa civilisation, elle est condamnée. Et il ne comprend rien. Au lieu d'entendre le message, et de comprendre que de sa femme, il faut quoi sa sœur, il dit, c'est ta femme, et bien reprends-la et va-t'en. Et voilà, cette civilisation est déjà. On sait que c'est là-bas que se passera la descente de Joseph, la sortie d'Égypte. Est-ce que c'est clair? Voilà donc le premier mot. On va prendre tout de suite le problème de Shrem. Je vais vous donner l'analogue de cette situation. Où il y a un message qui est entendu, et puis finalement il n'est pas entendu, qui est transmis, et finalement il n'est pas entendu. Mais je crois que vous avez parlé de tout ça, non? Bon, vous allez prendre le chapitre. Alors ça c'est dans Vayeshev. Non, pas dans Vayeshev, dans Vayeshev. Chapitre, alors je vais dire tout de suite, Vayeshev. Voilà. Chapitre 34. Chapitre 34, Lamed Gimel, depuis le début. Lamed Gimel. Lamed Gimel, au premier verset. 34, quel? Lamed Gimel, qu'est-ce que j'ai dit Gimel? Lamed Gimel, 34. 34, Lamed Gimel, pardon. Voilà, lorsque Jacob est revenu de chez Laban, alors il arrive à l'endroit de Shrem, à la ville de Shrem. Voilà comment la Torah nous raconte cela. Tu veux ouvrir un peu la porte, essayer d'aérer. Batetse Dina, Batléa. Attendez, non, prenez d'abord trois versets avant, deux versets avant, verset 18 du chapitre 33, juste avant. Vous y êtes? Bon. Alors il y a Vayavo Yaakov Shalem et Shrem, et Jacob arriva parfait à la ville de Shrem, c'était après la lutte contre l'ange, qui s'était passé la nuit, le lendemain matin il était guéri, donc c'est vraiment la fin du temps d'exil, il arrive à l'état de perfection, et Shrem, certains vous traduisent, et Jacob arriva à Shalem, qui est la ville de Shrem, mais c'est très mal traduit. Asher Beretz Knaan, qui se trouve dans le pays de Knaan, Bebo Mipadan Aram, en revenant de Padan Aram. Vayihan et Benehaïr, littéralement ça veut dire, il a campé à côté de la ville, sur la face de la ville, littéralement. Vaïken et Hekatasade Hashanat Hashamaolo, il a acquis la partie du champ où il avait planté sa tente, Miyad Benechamor, de la main des enfants de Hamor, Abi Shrem, père de Shrem, Bemea Ksita, par 100 Ksita, c'est une pièce de monnaie. Et Hatsisham Misveach, où il a installé là-bas un hôtel, Vaïkhaloël et Loké Israël, a invoqué le Dieu d'Israël. Chapitre 34. Voilà donc Jacob qui revient de chez Laban avec 12 garçons et une fille. Vous vous rappelez de cela? Tout de suite, du quoi la Torah nous parle? Batetse Dina bat Léa, et Dina, fille de Léa, Asher Yalda Léa Jacob, qu'elle avait enfanté à Jacob, sortit l'Irod Bimnot Aaretz pour aller voir les filles du pays. Bayarota Shrem ben Hamor. Et Shrem ben Hamor, Shrem, le fils de Hamor. Et on a appris que Hamor était le prince de la ville, qui s'appelle Shrem. Et le fils de Hamor, prince de la ville, s'appelle aussi Shrem. Alors Shrem, fils de Hamor, l'a vu. Le Achivi, le Chivéen, Nessie Ares, prince de la terre, Vaïkarota, il l'a prise, Vaïkarota, il l'a violentée, Vaïanea, il l'a violée. Vaïtibach Napcho Bedina. Et son âme s'est attachée à Dina. Bat Yaakov, fille de Yaakov, Vaïehav et Anahara, il l'a aimé. Après, Vaïdaver Alev Anahara, et il a parlé au cœur de la jeune fille. Disons, ça veut dire qu'elle était prête à l'accepter. Vous direz même tout ce qui va se passer. Mais je vais dire l'essentiel de ce qui me concerne, je vais vous rappeler si on a déjà dit. Lorsque Léa, lorsque Jacob revient de chez Laban, il a un problème. Avec qui fonder la 13e tribu? Vous vous rappelez de ce problème? Il y a 12 garçons. Et puis finalement, il y a une fille. Il y a donc 12 tribus, mais il en faut 13. La première stratégie, c'est de trouver un habitant du pays qui serait suffisamment proche de l'identité d'Israël pour fonder la 13e tribu avec Dina. Et l'unité d'Israël et le lien avec le genre humain tout entier auraient été fondés, la 13e tribu. C'est clair? Rappelez que Echad, c'est 13. Et donc, tant qu'il n'y a que 12 tribus, Israël est inachevé et il n'y a pas de lien avec l'unité des nations. Ça veut dire, au fond, on cherche le prince charmant. C'est pourquoi la Torah nous dit tout de suite, arrivé à Shrem, qu'est-ce qui va se passer? Dina sort voir les filles du pays, avec un seul problème, avec qui on se marie? Parce que si Jacob les a amenés là-bas, c'est qui sait pourquoi. Qu'est-ce qu'on sait déjà comme élément? On sait que dans cette ville, le prince s'appelle comme la ville. Ça veut dire que dans cette ville-là, il y a déjà le tikkun de ce qui était arrivé au temps de Caïn. Vous vous rappelez qu'on avait donné le nom de la ville au prince? Ça veut dire, puisque déjà, quelque part, dans le pays de Canaan, la ville a rendu son nom à l'homme, ça veut dire qu'il y a un visage de l'humanité universelle qui est en train de faire son tikkun, on peut faire mariage avec. Vous voyez, le problème à l'homme. C'est clair? Il en résulte que c'est quand même un barbare. Okay? Et je vais vous donner très très rapidement des indications pour montrer que lorsque Jacob s'installe, non seulement il s'installe, mais il éduque la ville d'après les lois du mariage. Je vais vous montrer très rapidement. Prenez à la fin du verset 18. Vayihan et Peneahir. Dans Vayihan, vous avez la racine de Mahane, le camp que l'on campait. Okay? Mais normalement, dans l'enseignement de la Gemara de Shabbat, que je vous cite là, normalement, il ne devrait pas y avoir un transitif. Il devrait y avoir Vayihan al Yedeahir. Il a campé à côté de la ville. Mais regardez bien le texte. Vayihan et Peneahir, le Midrash de la Gemara le lit autrement. Dit Asa Hanina l'Aïr. Il a mis une grâce sur la face de la ville. Et il y a un grand principe. On a le droit d'habiter quelque part, un grand principe petit au Talmud de cet exemple, on a le droit d'habiter quelque part que si on fait un tikkun là où on habite. Et pour se donner le droit d'habiter quelque part, il faut arranger quelque chose. Alors la Gemara demande qu'est-ce qu'il a arrangé. Vous suivez? Tout de suite après, il y a Vaïken et il a qui. Vaïken, c'est la racine Kano, acquérir. Mais c'est très proche de la racine Metaken. Le droit d'acquérir, c'est parce qu'il a fait un tikkun. Et la Gemara demande, Matiken Bahir, qu'est-ce qu'il a fait comme tikkun dans la ville, ce qui lui donne le droit d'y habiter. La Gemara nous dit tranquillement, il a installé trois choses. Il a installé la monnaie, d'accord. Il a installé les mains, il a installé la loi des marchés. Et alors, en général, on utilise cette Gemara, qui est importante pour elle-même, pour dire que dès que Jacob s'installe dans le pays, eh bien, il fonde une société avec son insertion dans la vie terrestre. C'est le tzaddik, mais le tzaddik qui met en œuvre les affaires de la ville. Tant qu'il n'y avait pas la monnaie, avec le troc, ça ne marche pas. Et puis, la parole donnée, les lois des marchés, le change, tout ça, vous savez que nous sommes spécialistes de cette histoire. Et puis les mains, c'est ça qui fait faire aussi. En fait, si on relie au problème du mariage, on s'aperçoit qu'il y a un lien très direct. Lorsqu'on étudie la première Mishnah du traité de Kiddushin, concernant les lois du mariage, s'aperçoit que la cérémonie du mariage demande la bague, par conséquent, installer la monnaie, deuxièmement, la ktouva, installer les lois du marché, et troisièmement, le bain rituel, installer les bains. C'est ça. C'est-à-dire, il a installé les lois du mariage, comment on se conduit avec autrui, et après, il a envoyé Dina prendre le thé chez la princesse pour dire avec où est le prince Arthur. C'est bon. Et là encore, c'est l'histoire d'Israël dans tous ses voyages. On a cherché le prince charmant partout. Et partout, on a cru qu'on l'a trouvé, et partout, il s'est dévoilé que c'était un barbare. C'est clair. Pour les Français, le prince Arthur était français. Pour les Hongrois, il était Hongrois. Pour les Russes, il était Russe. Les Polonais, il était Polonais. Et encore, il fallait se demander si c'était Polonais-Allemand, Polonais-Russe, Polonais-Autrichien, avant d'appeler aux autres Polonais. Et c'est vrai que dans tous les voyages, on a cherché Shrem. On ne l'a pas trouvé. Vous y êtes ? Et c'était la tentation d'Israël de proposer mariage à l'universel humain par le biais de l'endroit de la civilisation humaine où la ville avait déjà rendu son nom à l'homme. Alors ça veut dire qu'il est mariable. Eh bien, Dina de Malkuta Sardina, comme on disait. Et c'était le problème de... Personne ne s'appelle Dina, j'espère. Hein, je ne sais pas. Qui c'est ? Ça, c'est tout ça. Bon, je n'ai pas parlé d'elle. Donc, le problème, c'est qu'il faut marier Dina. Ça, c'est l'urgent. Bon. Ce que je disais est un peu schématique. Je vais vous le relire. Pourquoi tu ris? Alors vous allez reprendre le verset concernant Hanor. Alors prenez le chapitre 4. Prenez le chapitre 4. Au verset 17. Dalet Yudzayin. Vayedar Kain et Ishto, et Kain connut sa femme, Vatahar, elle conçut, Vateled et Hanor, elle enfanta Hanor. Vaïhi Bonéir, et il construisit une ville. Le sujet c'était Caïn, vous rappelez? Vaïkra Shemaïr, et il nomma le nom de la ville, Keshem Beno Hanor, comme le nom de son fils Hanor. Alors vous allez relire avec moi la fin du verset en vous étant des Taramim. Vaïkra Shemaïr, et il nomma le nom de la ville, Keshem, comme le nom. Et sous Keshem, vous avez un Tarha. Un accent comme ça. C'est un accent disjoncté. Ça veut dire, il nomma le nom de la ville Keshem. Beno Hanor, son fils est Hanor. Regardez bien, Keshem, c'est les lettres de Shrem. Vous avez vu? On a déjà pris? Non. Ça veut dire qu'il y a déjà une allusion là, que d'une certaine manière, il y a une analogie entre la ville de Shrem et cette ville que Caïn avait fondée. Quand Caïn avait fondé la ville, il a donné le nom de l'homme à la ville. Voilà que lorsque Jacob revient de l'exil, il trouve une ville dans le pays de Canaan où le prince s'appelle Ben Hamor. Bon, mais il s'appelle Shrem. Vous savez, c'est clair. Alors il s'est dit, eh bien, c'est lui le prince charmant. Et voilà, ça ne marche pas, c'est un barbare. Bon, ça c'est l'enseignement de la Torah pour lui-même. Ça veut dire qu'Israël est à la recherche du mari de Dina. En fait, je m'excuse de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Et de fonder la 13e tribu qui serait le point d'insertion avec l'universel humain en même temps que l'achèvement de l'unité des tribus d'Israël. Et ce que j'ajoute, c'est qu'on l'a cherché partout, et partout c'était un échec. Alors on est revenu chez nous. Un point. Vous voyez, c'est clair ?
Comment on va réussir à faire ce point ?
Eh bien, la deuxième stratégie de Jacob, puisque ça n'a pas marché, c'est de diviser la tribu de Joseph en deux. Alors regardez ça. Et c'est ce qu'il fait. Or, qu'est-ce qui est arrivé, nous dit le Midrash? C'est que de ce viol de Dina par Shrem est née une fille. Et cette fille est devenue la femme de Joseph. Et par conséquent, la tribu d'Éphraïm et de Ménaché qui viennent de Joseph, c'est quand même la descendance de Shem, mais par cachérisation de Joseph interposée. Comprenez bien ce qu'il y a dans ce thème. C'est clair ? Et on apprend dans le récit, je vais aller plus loin, on apprend dans le récit que Jacob, lui, s'est dit, bon, ça va, c'est un barbare, mais peut-être il va s'arranger. On va quand même faire alliance avec les Sichémites, je ne sais pas quoi. Shimon et Lévi, connaissez la fin du récit ? Les frères de Dinah interviennent et disent, c'est pas possible. Barbare, c'est barbare. On verra à la fin des temps, quand le prince charmant sera charmé. Et alors, seulement il y a un épisode dans le récit que je vais vous expliquer de deux manières. Une grave et une moins grave. La première manière, c'est que... Non, l'épisode, c'est que Shimon et Lévi ont demandé que les habitants de Shechem se circoncisent avant de faire alliance avec eux. Et quand ils étaient malades de la circoncision, ils en ont profité pour les tuer. Bon. Et c'est un épisode difficile à comprendre. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre ? Pas que ça se soit passé. Ça a pu se passer, mais que la Torah nous l'enseigne, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Okay. Et alors, et Jacob va garder ça jusqu'au bout, jusqu'aux bénédictions de ses fils, il va se rappeler de Shimon et Lévi, et de la canaout, comment dire, de ne pas vous traduire dans les termes contemporains, extrémisme. Leur argument est très clair. On ne traite pas notre sœur comme une prostituée. Un point. C'est vrai, barbarie. On lui offre le mariage de la Torah, et qu'est-ce qu'il fait ? Et alors, on attendra que le prince Arthur s'arthurise. Et alors, là... et puis on va se passer de lui, d'ailleurs, comme vous savez. Et alors, là... l'explication de la Kabbalah est très profonde. Ça veut dire que, dans cette civilisation-là, on avait déjà atteint les valeurs théoriques de Olam Haba. Mais au niveau Olam Hazeh, c'était la barbarie. Donc, ils les ont circoncis pour qu'ils aient Olam Haba. Mais pas Olam Hazeh. Est-ce que c'est clair ? Bon, je sais bien. C'est clair. Il y a quelque temps, ça veut dire qu'on les retrouve dans Olam Haba. Mais ils ne méritent pas de vivre dans Olam Hazeh. Dans Olam Hazeh, ils sont invivables. Seulement voilà qu'ils sont sur le chemin de Olam Haba. Alors ils iront à Olam Haba, mais pas dans Olam Hazeh. Est-ce que c'est compris ? Et je crois que c'est finalement le problème de toutes ces cultures qui ont des morales d'intention, mais au niveau des actes, c'est la barbarie. C'est-à-dire, au niveau de l'intention, ils méritent d'avoir la mabra, mais ils ne méritent pas de vivre dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, au niveau des actes, c'est la barbarie. Ils se mangent la cervelle et... Vous avez compris le problème ? Alors, ils iront en intention à la mabra, mais dans ce monde. Bon, ça c'est ce que la Kabbalah enseigne là-dessus, je pense que vous l'avez bien compris. Mais récemment, j'ai entendu une blague israélienne qui explique ça autrement. On dit, mais pourquoi ils ont circoncis avant de les massacrer ? Ni pour qu'ils soient juifs. Parce que si c'était pas des juifs, il y aurait eu déjà une commission d'enquête. Comme c'est des juifs, ils font une commission d'enquête. Si ça avait été des juifs, il y aurait eu Vardat Hakira. Si ça avait été des goyim, comme c'est des juifs, on s'en fout. Alors. C'est-à-dire qu'il y a une autre stratégie. C'est la stratégie de Joseph.
Elle marche pas beaucoup.
Elle marche. C'est Joseph qui finalement va chercher le mariage avec la culture égyptienne. Le Midrash dit, la femme de Potiphar, c'était pas une barbare, c'était, comment on dit la femme de l'ours, je sais plus. Ouais, une barbare. Une femme pas bien. finalement, une extrémiste, il s'est mis dans ce monde-là. Et beaucoup de Joseph se perdent. Mais il y en a un qui est sadique. Une extrémiste, il se sauve. Et finalement, qui l'épouse ? La fille de Dinah. C'est comme ça qu'il récupère par cette stratégie ce qu'il va recevoir de Shem, en passant par Joseph. Et je vais essayer de vous dire ça. Ça peut nous servir de bilan de ces 2000 ans d'exil. Étudier l'histoire de toutes les communautés. Je sais bien que vous êtes déjà déraciné du point de vue de vos communautés d'origine. C'est plus vraiment les communautés que vos parents ou grands-parents ont connues et la symbiose avec la culture des goyim chez qui ils ont vécu. Mais de façon profonde, absolue, chacune des communautés juives, des centaines de milliers de tribus différentes ont vu chez les goyim où ils vivaient. Et partout, ça a été une déception sans exception. Sans exception. Il n'y a pas d'exception. Et c'est ça, c'est ce bilan qui a fait qu'on décroche. Et c'est Joseph qui revient. en Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, il y a les bébés, ça naît tous les jours. Donc, depuis 48, quand on a fait ce bilan, il y a des bébés juifs qui naissent et qui recommencent le rêve de Joseph. Peut-être que cette fois, ça sera la mort. Hein? Si je pouvais vous lire, dommage, si j'avais. Si je pouvais avoir la dernière information juive, je vous lirais un article d'un écrivain, un jeune écrivain, algérois, d'Alger, qui habite la Bretagne, et comment il décrit, en tant que breton, de fraîche date, la nostalgie des boulettes de sa mère algéroise. Je ne sais pas comment vous dire. Ça veut dire que celui-là, il cherche vraiment le prince Arthur là où il est, en Bretagne. Ah, tu l'as là? Tiens. Voilà, j'ai pas le temps de vous le lire, mais vous m'entrez le lire. Non, c'est pas celui-là. Tu l'as lu? Non, ton article, il y a un certain Albert Massouton. Je ne dis rien. Alors c'est celui-là. Mais où tu l'as pris celui-là? Dans le bureau, avant que je le lise. Avant que je le lise. Et l'autre, oui. Tu ne veux pas dénoncer. Hein. Merci. Bon, alors vous chercherez l'information juive avant. Demandez-le au bureau. Alors vous allez voir un article de la nostalgie d'un Algérois habitant la Bretagne et cherchant le prince Arthur, vous avez compris de quoi il s'agit, en Bretagne, mais disant non, décidément, le vrai c'était Alger. Seulement Khlet, c'est bien. Mais il n'y a pas le problème. Je ne crois pas qu'il existe au monde un seul juif qui n'ait pas connu cette expérience avec la manière d'être homme qu'il a connue chez ses goyim à lui, en étant persuadé que le prêt charmant c'est celui-là et que les autres c'est des métèques. Okay? Et bien, d'Afka, ce prince charmant-là, c'est la déception absolue. Il n'y a pas d'excuse. Je crois que la dernière grande déception, c'était les juifs russes. On n'a aucune idée à quel point le judaïsme de Russie a été grand, riche et fort et énorme, plus que toutes les autres communautés, les juifs de Pologne y compris. C'était un tout outstanding. On parle de Vilna, Odessa, et tout ça. Et puis, ils se sont donnés à corps perdu au mariage avec la révolution d'octobre. Ils étaient persuadés que le Messie était arrivé et qu'il parlait russe. Sans problème. Et la déception qu'ont pu avoir les juifs de Russie, c'est vraiment l'exemple le plus massif de ce que vous avez raconté ici. Est-ce que c'est clair? Finalement, qu'est-ce qu'on a eu comme juifs de Russie rescapés? Les quelques petits fondateurs de l'État juif, on en a eu 4 ou 5, alors qu'on aurait pu avoir un judaïsme russe énorme qui fonde un Eretz Israël énorme. D'autre part, vous attendez après la Kabbalah, pourquoi la Géoula devait commencer par les juifs russes? Mais c'est un autre problème. Ok? Vous en avez déjà parlé. C'est l'heure. Je vais vous lire juste un verset sur Yitzhak et Rebecca. Donnez-moi la référence, c'est le chapitre 20 combien?
Chapitre 20.
Non, 24. Hein? La troisième réponse. Tu veux accueillir, mais. Ah, 26, d'accord. Kavavken. Non, un peu plus loin. Kavav combien? 26. Alors prenez le verset 8. Vous lirez tout le contexte, Ken. Non, prenez le verset 6. Allez, prenez le verset 6 déjà. La page Pesaï, la base. Voyez chez Yitzhak, Vigra. Il y a eu aussi, regardez comment commence le récit, au chapitre 26, voyez, Rabba, il y a eu une famine, et Isaac va aller s'installer dans la région du pays de Canaan qui s'appelle la Philistée, Eretz Plishtim, le territoire de Gaza aujourd'hui, qui s'appelait Gerar. Alors, verset 6. Vayeshev Yitzhak Bigra, et Yitzhak s'est installé à Gerar. Vayeshalou, Anshamakom Neishtu. Voyez, obsession. Les hommes de l'endroit interrogent au sujet de sa femme. Et il dit, Achoti, c'est ma sœur. Comme si ça ne lui avait pas servi de leçon. On dit comme ces juifs sont entêtés. Qui arrête les morts, Ishti, car il avait peur de dire ma femme, Peña Ogoni, de peur qu'il me tue, Anshamakom, les gens de l'endroit. Alors, si déjà, ne va pas là-bas. Al-Rivka, à cause de Rivka, Tito Vatmarei, car elle était belle. Il y a une autre expression qui dit, littéralement, bonne à voir. Tovat Maré, belle d'apparence. Oui, chaque fois il y a le Maré d'apparence. Non seulement elle est belle pour lui, mais elle est belle pour l'extérieur. Vous voyez le niglé, ok? Voyez, verset 8. Qui a roulé au chan à Yamim, et il arriva, lorsque les jours se sont allongés pour lui là-bas, Vayashkef Abimelech Melech Pelishtim, et Abimelech, le roi des Philistins, Vayashkef, il a regardé par le Mashkov, par la fenêtre. Beradachalon, par la fenêtre, Vaya, et il vivait Yitzhak Metzachek et Rivka Ishto. Il a vu Yitzhak riant avec Rebecca, sa femme. Alors Abimelech convoque Yitzhak, Vayomer, il dit, Ach, iné, je t'ai, alors c'est ta femme, puisque tu ris avec elle. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous vous rappelez qu'on a étudié l'identité d'Yitzhak et l'identité d'Ishmaël? C'est que ce qui a disqualifié Ishmaël, c'est qu'il était Metzachek. On voit ici Yitzhak, Metzachek. Isaac riant maintenant. Ça veut dire, lorsque ce problème de la femme qui est la sœur est résolu, alors Yitzhak peut rire. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que c'est un moment de fin d'été. C'est-à-dire que c'est un des grands messages des patriarches, et vous remarquerez, remarquez vous-même, à quel point c'est le problème de la génération contemporaine. Parce qu'une génération de fin de civilisation, des générations contemporaines. C'est ce qu'on appelle le problème de la communication entre autrui et autrui, ça c'est le problème Caïn Abel. Mais surtout dans la dimension intérieure, le problème de la communication dans un rire authentique entre l'homme et la femme. Lorsque Yitzhak et Rebecca sont frères et sœurs, alors Isaac rit. C'est un moment énorme dans le récit de la Torah. C'est un moment de fin d'été. Vous avez compris? Top. Bon, je crois qu'on a vu un peu l'essentiel à ce sujet. Alors j'ai bien conscience que vous avez des foules de questions qui sont encore restées dans votre papier. Là. Et c'était tout à fait normal. Mercredi matin, nous allons avoir une réunion de promotion pour faire le bilan de l'année. Une demi-minute.